vous avez tourné, parce que c'est quand même une zone qui aujourd'hui, d'un point de vue sécurité, est classée en zone rouge.
Oui, alors bonsoir Tatiana. C'est vrai que sur la ville de Diffa même, la sécurité est relativement assurée quand même depuis quelques mois, donc plutôt facile. Pour obtenir l'autorisation de tourner dans ce sens, ça a été un petit peu plus long, un petit peu compliqué, parce que il y avait beaucoup de médias lorsque Mohamed Bazoum, le ministre de l'Intérieur, l'a inauguré en décembre 2016. Mais c'est vrai que plusieurs mois après, c'était peut-être un peu plus compliqué. Mais c'est aussi une vitrine pour le gouvernement nigérien, qui veut montrer sa politique de main tendue vis-à-vis des ex-combattants de Boko Haram. Donc ils ont assez facilité le tournage.
Alors on voit toutes sortes de profils, des professeurs, des jeunes, des enfants qui avaient 12 ans quand ils ont été kidnappés. Mmh. On voit aussi des femmes qui vous ont marqué, mais qu'on voit pas beaucoup dans votre reportage. Apparemment c'était difficile de les interviewer.
Oui, tout à fait. Déjà il y a de la peur, parce que beaucoup d'entre elles sont contraintes. Alors une minorité des femmes que j'ai rencontrées avaient choisi un époux avant que cet époux ne rejoigne Boko Haram. Donc elles étaient parfaitement consentantes, mais d'autres ont tout simplement subi le destin de beaucoup de jeunes filles de la région, c'est-à-dire qu'elles ont tout simplement été enlevées, kidnappées, puis mariées de force à des combattants de Boko Haram. La jeune fille que l'on voit dans le reportage, elle a eu 3 maris successifs, qui étaient 3 chefs évidemment de Boko Haram dans la région, et elle en fait, elle explique tout simplement que sa famille n'est même pas au courant qu'elle est là, et elle aimerait tout simplement juste être libérée finalement.
Alors très rapidement, vous le dites dans le reportage, le camp est gardé par des hommes armés, des militaires, je suppose. Ces gens qui sont dans ce camp sont réellement dangereux aujourd'hui?
Les gens qui sont dans ce camp, ce sont des gens qui se sont rendus eux-mêmes. Ce n'est pas des combattants qui ont été arrêtés. Les leaders de ce groupe, finalement, sont autorisés à rentrer et sortir pour aller d'un bâtiment à l'autre. Il y a 3 bâtiments. Très peu de militaires finalement le gardent, on va dire même pas une dizaine. Pourquoi ? Puisque la section antiterroriste de Diffa se trouve à quelques mètres, et la plupart se sont rendus aux autorités nigériennes, je le disais, de par la politique de main tendue des autorités nigériennes, et donc la plupart des gens qui sont là là de leur volonté. Après, on le disait, le transfert vers le camp final de Goudoumaria n'est toujours pas opérationnel, et certains finalement aimeraient qu'on essaye d'accélérer un petit peu les choses justement.
Alors justement, on va parler de ce camp de déradicalisation avec vous, Ali Mahaman. Ali Mahaman, vous êtes en direct de Diffa, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir.
Oui, je vous entends très bien, madame.
Alors à quoi devrait ressembler ce centre et qui devrait normalement voir le jour d'ici la fin de ce mois, non?
Oui, comme vient de le dire monsieur le gouverneur de la région de Diffa, Dandano Mahama Lawali, et ce camp est situé à 200 km au nord-ouest de Diffa. Il est censé accueillir jusqu'à plus de 160 répentis. Donc ce camp comporte des dortoirs, des sanitaires, des locaux de services sociaux comme dispensaires, ateliers de salles. Donc ce camp est conçu aussi pour assurer à travers ce camp. Donc il y a un programme de formation. Alors, dans 5 filières. Dans 5 filières de formation.
Alors justement,
et notamment la maçonnerie métallique, maçonnerie du bois, mécanique, auto-école, auto et couture et broderie. Donc voilà le programme de formation. Il y a aussi un plan de formation religieuse en vue de la déradicalisation.
Alors justement, Monsieur Mahaman, justement, comment est-ce que un jeune qui a été pris à 12 ans, qui a été kidnappé à l'âge de 12 ans, par exemple, on fait pour le déradicaliser? Comment est-ce qu'on s'y prend?
Oui, effectivement, madame, comme on le dit souvent, il n'existe pas de méthode unique de déradicalisation. Et ici, au Niger, il s'agit d'un processus donc d'émancipation du radicalisme qui va encourager donc la réintégration de l'individu dans la société. Donc, au niveau de ces camps, comme il y a des populations, il est prévu donc des réinsertions au sein de la communauté de ces répentis, donc pour les préparer à mener une vie normale. Donc, il s'agit donc d'un processus d'émancipation, donc qui va nécessiter une forte volonté politique, ce que l'État nigérien est en train de montrer.
Alors justement, vous parlez
d'une s'inscrit dans la durée.
Alors vous parlez d'une volonté. Oui, vous parlez d'une volonté aussi politique. Est-ce que le pays a réellement les moyens financiers de financer ce genre de camp à travers toute la frontière, toute cette zone qui est touchée par Boko Haram? Ou est-ce qu'il y a une collaboration avec des pays de la région?
Oui, il y a cette collaboration. Il y a des partenaires qui assistent à l'État nigérien, effectivement, depuis que l'État s'est engagé, où la guerre a été imposée par notre pays. L'État a dégagé beaucoup de moyens et continue d'engager, de dégager ces moyens. Et les partenaires du Niger, effectivement, vont l'assister. C'est le cas présentement. Les échanges qu'on a eus avec les responsables, c'est la coopération suisse, par exemple, qui assiste. Il y a aussi la haute autorité à la consolidation de la paix. C'est une structure liée directement à la présidence de la République. Les ONG, les partenaires qui sont présents sur le terrain à DIFA, le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Donc,
effectivement, il y a plusieurs structures.
Sur l'appui de ses partenaires.
Alors, Christian Seignobos, vous êtes en direct de Paris. Donc, justement, cette région du lac Tchad qui comprend cette partie aussi du Niger, est-ce que c'est cette complexité géographique qui explique comment on se retrouve au bord de tous ces pays comme le Niger, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, avec des incursions de Boko Haram, et il faut retourner dans les localités pour pouvoir déradicaliser, on le disait. Est-ce que c'est la complexité géographique qui rend la situation aussi complexe?
C'est forcément la difficulté du lac, qui est un milieu extrêmement particulier, puisque c'est un immense marécage avec des milliers d'îles et également des îles très complexes, qu'on appelle des îlots blancs, c'est-à-dire des îles qui disparaissent, qui réapparaissent, parce que on a une bathymétrie constante, changeante de ce lac, qui fait qu'on n'a pas véritablement, on n'a jamais eu de carte très fiable sur le lac. La toponymie change sans arrêt. Les populations Bouduma ou Yedima qui sont dans le lac ont plusieurs villages qui changent au cours de l'année. Donc c'est très difficile de contrôler le lac. C'est pour ça que quand il y a des factions de Boko Haram qui sont allées sur le lac et qui ont pu faire une alliance avec certains groupes de ces Bouduma, pas tous bien entendu, mais qui, à partir de là, c'est difficile de les en chasser. Donc on comprend bien que on prend les gens qui veulent bien se déradicaliser, mais qui viennent vers l'armée ou vers le gouvernement, mais c'est difficile d'aller les arrêter ou d'aller les prendre sur les îles du lac ou même sur les rives du lac.
Exactement, merci beaucoup. Alors concrètement, qu'en est-il de la menace de Boko Haram aujourd'hui dans cette région du Niger? Nicolas Pinault, vous avez interviewé le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait.
Le combat est pratiquement gagné. Nous avons eu beaucoup de succès. L'ennemi a été affaibli. Il l'a été au Nigeria déjà. Il est au Cameroun, il est aussi au Niger, au Tchad, ça fait déjà très longtemps qu'ils ont pris le dessus sur lui. Il reste évidemment quelques capacités résiduelles de nuisance de la part de cette organisation, mais rien de l'ordre de ce qu'ils avaient pu faire il y a de cela quelques années, rien non plus de nature à remettre en cause la stabilité des pays voisins du Nigeria. Sur l'état de Borno, à l'intérieur du Nigeria, par endroits, certainement qu'ils conservent encore quelques capacités, mais elles ne sont pas particulièrement importantes.
Alors Nicolas Pinault, le ministre de l'Intérieur nigérien semble plutôt optimiste, on pourrait dire. Mais est-ce que c'est lié aux dissensions qu'il y a au cœur de Boko Haram, au cœur du mouvement aujourd'hui?
Alors Mohamed Bazoum, il a évidemment un discours politique. Ce qu'on peut noter, c'est que la dernière grande attaque, elle a eu lieu au mois d'avril à Guesskerou, qui est à 30 km environ de Difa. Une cinquantaine d'éléments de Boko Haram sont morts et ont attaqué cette position. Il y en a une autre grande à Kaya, qui se trouve cette fois-ci côté tchadien de la frontière, où il y a eu une dizaine de soldats tchadiens qui ont été tués. Les spécialistes, en tout cas les militaires que j'ai rencontrés dans la région, estiment qu'il reste environ entre 4 et 6 000 combattants de Boko Haram répartis dans tous ces, évidemment dans ces différents pays. On a aujourd'hui une situation où on a Boko Haram qui aurait trois principaux groupes, on va dire Shekau, le leader évidemment qui apparaît très souvent dans les vidéos avec son discours très incendiaire, et on aurait une dissension qui n'en est pas vraiment une, avec notamment Maman Nour et Al-Barnaoui qui seraient réfugiés justement dans ces îles du lac Tchad. Mais ce que nous disent les militaires dans la région, c'est que ce ne sont pas vraiment des dissensions, car Ce sont un peu des territoires et il y a des escarmouches entre ces groupes, mais globalement, ils partagent la même idéologie. Donc, on aurait plutôt trois différentes branches, finalement, mais qui auraient la même idéologie.
Alors, Halima Amman, peut-on parler de progrès de la part du G5, cette force régionale dont fait partie le Niger et le Tchad? Est-ce que c'est la collaboration qu'il y a depuis maintenant 2-3 ans entre tous ces pays qui fait en sorte que Boko Haram semble reculer, du moins dans certaines zones?
En effet, G5 Sahel déploie beaucoup d'efforts dans le renforcement des capacités de nos États. Je m'avais cité des exemples. On a toujours assisté à leur activité. À Bamako, ils ont organisé un colloque sur la déradicalisation. Ils ont poursuivi le processus à Niamey en décembre passé. Et tout récemment, il y a deux ou trois jours, ils ont organisé une activité au niveau de Nouakchott pour mobiliser en tout cas tous les acteurs concernés, que ce soit les forces de défense et de sécurité, et les ONG, les structures administratives des États concernés. Et pour un renforcement de capacité, pour en tout cas mener des activités. C'est ainsi que G5 Sahel dégage quatre axes: l'axe sécurité et défense. Alors, beaucoup d'efforts sont déployés. L'axe infrastructure également, pour améliorer les conditions de vie des populations.
D'accord.
Et aussi,
merci.
On a l'axe de la gouvernance. La gouvernance des cinq États impliqués.
On reviendra dessus en deuxième partie. Alors, vous avez été nombreux à réagir sur notre page Facebook de VOA Afrique. Quelques réactions. Louis Mutunga Kamina en RDC qui nous dit: le Tchad est devenu la cible de Boko Haram à cause de son intervention dans la lutte contre ce mouvement islamiste radical. Le défi à relever est de sécuriser les environs du lac où les victimes pouvaient mener une vie normale sans sécurité. Pas de solution. Hassan Omar Boulalé Gache à Djibouti qui nous dit: la zone du lac Tchad est en crise entre terrorisme et changement climatique conjugué à une insuffisance alimentaire. L'Afrique doit subvenir aux besoins des damnés du terrorisme et du changement climatique par le pragmatisme et la solidarité de ses leaders. Et Moussa Manzo Dosso au Niger qui lui nous dit: le bassin du lac Tchad traverse la pire tragédie de son histoire. Insécurité, ensablement, famine, réchauffement, la liste des calamités est longue. Il faut que la population du bassin se réveille pour trouver une solution adéquate. Et sur ces mots, on va marquer une courte pause. Restez avec nous.
Plus de nos programmes sur FM en cours, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Jamina, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
De retour dans ce Washington Forum consacré à la crise dans la région du lac Tchad, suite de notre série de reportages. Cette fois, on se penche sur la situation humanitaire autour du lac Tchad. Parlons des réfugiés nigérians qui ont fui Boko Haram pour se rendre au Tchad. Beaucoup sont des pêcheurs qui tentent de poursuivre leurs activités sur le lac. Nicolas Pinault, notre envoyé spécial, les a rencontrés.
Au petit matin, les abords du lac Tchad ne sont pas silencieux. Au contraire, dans le village de Tagal, on s'active pour nettoyer les poissons attrapés pendant la nuit. Les pêcheurs, des réfugiés nigérians, tentent de mener une existence similaire à leur vie d'avant, avant les attaques de Boko Haram. Okacha Seydou a 14 ans, originaire de Doron Baga, un village nigérian attaqué par les djihadistes en janvier 2015.
Je suis un pêcheur et la vie ici n'est pas facile. J'ai des amis qui sont restés au Nigeria, ils me manquent.
Les réfugiés nigérians cohabitent pacifiquement dans ce village de Tagal où les habitants tchadiens leur louent les bateaux et les filets nécessaires pour pêcher. Une location qui coûte cher puisqu'en moyenne, il faut réserver un tiers de la pêche quotidienne aux propriétaires du bateau. Mohamed Michael est un pêcheur nigérien.
On paye pour tout, pour aller pêcher, pour le filet, pour le bateau, etc. C'est dur. Quand les conditions et la paix seront revenues, on rentrera au Nigeria.
Ce matin-là, sur sa pirogue, on croise aussi un colosse, Abakar Maïga, Avec son débardeur jaune, ce Malien originaire de Gao explique qu'il a quitté son pays depuis les années 90 pour exercer son activité de pêcheur.
Tout le monde sait pourquoi nous sommes là. C'est à cause de Boko Haram. Je suis un pêcheur. Au Mali, je ne pouvais pas pratiquer la pêche.
Depuis les premiers attentats de Boko Haram en territoire tchadien à l'automne 2015, la sécurité s'est grandement améliorée dans la zone du lac Tchad et les habitants de Tagal savourent ce retour au calme.
Avant, c'était en 2015. Bon, on avait un peu peur. Mais maintenant, Boko Haram est repoussé jusqu'au niveau des frontières. Donc maintenant, les gens au milieu ici, il n'y a rien. On n'entend même pas les bruits. Et on ne voit même pas Boko Haram. On n'a pas peur, on dort bien la nuit.
Il est déjà 10h du matin ce jour-là à Tagal. Les pêcheurs nigérians prennent leur repas avant d'aller dormir. Une nouvelle nuit blanche les attend tout à l'heure lorsqu'ils iront pêcher sur le lac Tchad.
Nous a rejoint dans cette deuxième partie d'émission Yorg Kounel, chef des opérations du PNUD au nord-est du Nigeria. Il est en direct d'Abuja, toujours en direct de Paris. Christian Seignobos, géographe et directeur de recherche à l'IRD. Et puis sur ce plateau, Nicolas Pinault. Alors Nicolas, comment est-ce que ces déplacés qui arrivent à la fois du Nigeria ou du Niger cohabitent avec ceux qui étaient là avant, quoi?
Alors il y a une cohabitation qui est plutôt pacifique. Il y a aussi évidemment, comme ce sont des pêcheurs et que les Tchadiens qui sont installés autour du lac le sont aussi, finalement il y a une coopération environ en moyenne les réfugiés nigérians qui doivent vendre et donner aux propriétaires du bateau un tiers de ce qu'ils ont pu pêcher durant la nuit, ce qui fait pas forcément plaisir aux réfugiés nigérians, mais il y a aucun, en tout cas quand j'étais sur place, il y a aucune animosité, c'est une coopération finalement. Il faut savoir qu'il y a environ 120 000 déplacés autour du lac Tchad, et sur la ville de Bagassola, là où je me suis rendu, qui est un peu la ville principale autour du lac, vous avez un camp, le camp principal de Dar es Salaam, où vous avez environ 5 000 réfugiés nigérians.
Alors Yorg Kounel, des déplacés, il y en a tout autour de ce bassin du lac Tchad. Comment est-ce que vous travaillez avec le PNUD dans ces zones-là qui sont à la fois atteintes par la sécheresse et aussi par la menace du conflit?
Oui, effectivement. Donc, comme vous le savez, en ce moment, on a à peu près 1,5 million de déplacés dans la région. Et notre stratégie parmi les agences du système des Nations Unies est en deux voies. Premièrement, on essaie de donner l'assistance humanitaire directe, donc mais les chiffres sont énormes. Il y a à peu près 5 millions au-delà des personnes déplacées qui sont face à une insécurité alimentaire en ce moment. Donc avec des très très grands efforts en ce moment, on arrive à délivrer l'aide alimentaire à peu près 1 million, et on est en train d'essayer d'augmenter ça le plus vite possible, mais évidemment il y a pas mal de défis. En même temps, nous voulons pas rater l'opportunité ici de également rebâtir les bases de la société, ce qui est très important et qui n'a pas été fait dans d'autres pays. Donc là, on a plutôt créé la dépendance, et on espère qu'au Nigeria et dans la région de Lake Tchad, on va arriver en même temps de créer, d'aider les communautés à rebâtir leur vie et prendre la main en leur propre main.
Alors, Yorg Kounel, qu'est-ce qui rend la prise en charge difficile? Est-ce que c'est plutôt le conflit dans la zone, ou alors les conditions climatiques qui se sont dégradées ces dernières années, ou les deux de même front?
Bon, les conditions climatiques évidemment jouent un rôle, mais principalement la cause principale pour la crise alimentaire, c'est vraiment l'insurrection. Donc comme vous le savez, il y a à peu près 80% des champs qui n'ont pas été utilisés pendant les dernières 4 ou 5 ans. À cause de la guerre, à cause de l'insécurité. Et même maintenant, une grande partie de la région reste dans l'insécurité. Et c'est pas facile pour les agriculteurs de revenir dans leurs champs. Donc, dans l'absence de la sécurité, c'est vraiment difficile de relancer l'agriculture, de relancer l'économie locale. Ça, c'est la cause principale. En même temps, comme vous le savez, la région a été négligée depuis plus que 50 ans. Donc, si vous regardez les les indicateurs de la pauvreté. Les chiffres, même avant l'insurrection, ont été beaucoup pires que, par exemple, au Darfour, au Soudan. Ce qui a été négligé aussi par la... par la communauté internationale pour longtemps. Donc, en partie, c'est l'insurrection, en partie, ce sont des raisons structurelles à long terme.
Alors, Christian Seignobos, dans le sujet de Nicolas Pineau, on comprend que la pêche est le seul moyen de survie de ces populations, du moins aux abords du lac. On a vu différentes études dans la presse qui montrent la réduction géographique du lac. Je crois que vous n'êtes pas tellement d'accord avec cette thèse.
Oui, pas du tout. Je pense que on avait un grand lac qui était présent encore dans les années 55. Ensuite, on a eu une réduction de ce lac après 73, et on a ce qu'on appelle une forme de petit lac où on a 13 000 km² et on a, je veux pas vous abreuver avec les chiffres, 1 700 km² qui sont en eau libre, et ce petit lac fonctionne très bien pour les populations qui sont autour du lac, et en particulier celles qui sont sur les rives méridionales du lac. Il y avait là un véritable Eldorado qui s'est dessiné dans cette période-là, dans ces dernières décennies, qui a fait que jamais les populations n'ont pu avoir autant d'avantages. En particulier, il y avait une réduction de l'eau pour les pêcheurs, une concentration du poisson qu'on pouvait bien pêcher avec le système des nasses maliennes. On avait ensuite les éleveurs qui avaient réussi à transformer leur bétail dans des pâturages aquatiques et de faire venir leurs zébus dans de l'eau et les faire manger ces pâturages aquatiques sur des eaux qui allaient jusqu'au garrot. Et derrière eux, il y avait les cultivateurs qui avançaient, et les cultivateurs qui avançaient sur des kilomètres sur les laisses du lac. C'était un véritable Eldorado pour ces gens-là, avec des récoltes qui étaient 2-3 récoltes de maïs, de niébé, et de canne à sucre.
C'était
vraiment très intéressant.
Alors Christian Seignobos, est-ce que pour vous, c'est le changement climatique, El Niño par exemple, les conséquences d'El Niño qui causent cette famine qu'il y a aujourd'hui autour du lac Tchad pour tous ces nombreux déplacés ?
Non, je pense pas. Je pense que les gens avaient réussi à trouver un équilibre entre les différentes activités sur ce lac qui était rétréci, et c'est ce qu'ils trouvaient fort intéressant. En plus, dans ces zones-là qui sont les rives méridionales du lac, qui sont très différentes des rives nord, il y avait une liberté au niveau du foncier qui ont fait qu'on a eu une populations qui sont arrivées, et on a véritablement dans cette zone-là des populations, une véritable babélisation de populations. Les populations sont arrivées justement parce qu'on avait eu des secousses climatiques de 73 et puis en 84.
Christian Seignobos, je vous remercie, oui. on va aller très vite, c'est déjà la fin de cette émission. Un dernier mot, qu'est-ce qui vous a marqué pendant tout ce voyage rapidement, Nicolas Pineau?
C'est peut-être la volonté que certains réfugiés déplacés n'ont pas de rentrer chez eux. Car le fait d'être dans des camps, ça leur donne l'accès à l'eau, ça leur donne l'accès à l'éducation qu'ils n'avaient pas avant. Et beaucoup de gens que vous croisez à Diffa ou vous croisez sur les rives du lac Tchad vous disent « Mais nous, on ne rentrera jamais chez nous parce qu'on a accès à des services dont on n'avait pas accès avant. »
Des reportages de Nicolas Pineau que vous pouvez suivre sur le site de VOA Afrique. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique ainsi qu'à la RTN TV à Bamenda au Cameroun qui diffuse Washington Forum. Bonne fin de semaine à vous. We'll be right back.